sur la table. Et aujourd'hui, les gens de Salt Lake City, le propriétaire de l'équipe de basket là-bas et de l'équipe de soccer, de Major League Soccer, il met, Patrick, 1,2 milliard de dollars américains. 1,2 milliard de dollars américains pour obtenir la concession. Et donc, en canadien, là, inutile de, si on fait la conversion, là, on tombe à pas loin de 2 milliards de dollars. Alors, on a probablement plus aujourd'hui les ressources collectivement pour faire ça. Et c'est là que tu vois que la grosse occasion ratée, ça a été en 2016, et je m'en souviens encore très bien. Il y a eu un processus d'expansion dans la Ligue nationale de hockey. Il y avait deux candidats, deux villes qui ont déposé une caution de mémoire. C'était 10 millions de dollars pour faire véritablement acte de candidature. Vegas et Québec. Québec s'est à peu près retiré du processus 2 ou 3 mois avant la décision finale. Québécois était derrière ce projet-là. J'entends encore l'ancien président du conseil d'administration de Québécois, Brian Mulroney, qui avait déclaré dans une entrevue à nos collègues du FM 93 à Québec que le taux de change à ce moment-là faisait trop mal et que dans ce contexte-là, on pouvait pas rêver d'avoir une équipe à court terme. Mais je veux simplement rappeler que si on avait persisté à ce moment-là, Patrick, le coût qu'on aurait payé en 2016 pour une équipe de la Ligue nationale de hockey, c'était 500 millions de dollars américains. Huit ans plus tard, les Sénateurs d'Ottawa, un autre petit marché canadien, ont été vendus près de 1 milliard américain. Et aujourd'hui, c'est 1,2 milliard américain pour Salt Lake City.
L'inflation est vraiment sur les stéroïdes dans le sport professionnel, ouais. Philippe. Mais dis-moi, dans le cas de Québec, obtenir la concession, c'est une chose. Après ça, générer des revenus pour la Ligue, c'en est une autre.
C'en est une autre, puis j'ai l'impression que le modèle de ce qui se passe à Winnipeg. Winnipeg, c'est une saison difficile au guichet. Au début, il y avait beaucoup de billets de saison. Et oups, d'un coup, ils se sont ramassés. Quand les gens ont dû renouveler, il y en a eu moins. Ils ont commencé leurs premières années dans la Ligue nationale. Il y avait 13 500 billets de saison. Là, l'économie est plus chambranlante. Oups, on est tombé à 9 500 billets de saison. À Ottawa, il y a eu des ennuis aussi. Alors, les petites villes canadiennes, c'est dommage, là, mais les faits parlent d'eux-mêmes. Pour réussir, pour convaincre la Ligue nationale, faut que ça soit succès assuré. Et dans les plus petits marchés canadien à l'heure actuelle, ça a été plus difficile au cours des dernières années. Ça non plus, ça ne joue pas en faveur de Québec, c'est l'évidence même.
Merci beaucoup, Philippe. Je te souhaite une excellente soirée.
Salut.
Au retour, on a beaucoup de sujets, dont, les dents de la mer. Restez des nôtres avec Pierre-Yves McSween.
Vous connaissez quelqu'un qui s'est illustré dans un domaine sportif? Contactez sport@commercialcfxrimouski.com. Vous faites partie d'une organisation sportive? Votre équipe participe à un tournoi? Contactez-nous! CFX FM 93, la référence pour tout ce qui se passe dans la région. Le beau temps approche à grands pas. Et chez Batterie Expert, nous sommes prêts à vous faire vivre une saison inoubliable. Avec une vaste sélection de vélos, quadriporteurs et autres petits véhicules électriques, nous vous invitons à découvrir l'aventure qui vous attend. Nos experts sont là pour prendre soin de vos besoins en entretien et réparation sur place. Pour l'entretien de votre terrain, nous vous proposons les produits EGO, tondeuses, coupe-herbes, souffleurs à feuilles et autres accessoires. De plus, ne manquez pas notre collection d'accessoires solaires. Batterie Expert, 145 montées industrielles et commerciales, Rimouski. Le centre de sport JMD Passion Hockey fête ses 10 ans à l'été 2024. C'est avec un tout nouveau complexe qui comprend deux surfaces, terrasses et services qu'on vous invite à vous inscrire pour la saison d'été dès maintenant. 5 classes masculines, 3 classes mixtes et 2 classes féminines. Cette saison comprend 16 matchs plus série. Pour la classe Open, Deck Espoir de 5 à 12 ans et la Ligue M16, les inscriptions débutent le 25 mars. Rejoins-nous pour une expérience palpitante. CSJMDDECRIMOUSKI.COM.
Rimouski 93.3. C'est fixe. Nouvelle régionale.
Voici vos nouvelles du 18 avril 2024. Le maire de Rimouski, Guy Caron, reconnaît avoir des réserves quant à la possibilité de réussite d'un nouveau projet immobilier sur le site de la partie ouest de la Grande Place. La firme Corev s'est portée acquéreur du terrain sur lequel était destinée la phase 3 du projet du Havre de l'Estuaire de Groupe Sélection. Après la faillite de cette entreprise, le terrain est devenu disponible. Si Corev veut construire et éviter les écueils vécus par les promoteurs précédents avec l'Association des propriétaires riverains, M. Caron recommande d'utiliser le concept et les plans déjà développés par Groupe Sélection pour mener à bien son projet. Le dossier des résidences du cégep de Rimouski n'est toujours pas réglé. On est toujours à la recherche d'un gestionnaire pour les 4 immeubles de l'avenue Saint-Louis, même s'il ne considère plus la vente des résidences. Le collège voudrait les céder par bail emphytéotique à un gestionnaire. Des négociations ont eu lieu récemment avec l'unité de travail pour l'implantation de logements étudiants, l'UTIL, mais elles n'ont pas été concluantes. Le grand ménage annuel des rues de Rimouski a débuté lundi. Les cols bleus s'affairent présentement au nettoyage et au balayage des rues, trottoirs et parcs municipaux, jour et nuit. La ville n'utilise plus d'eau potable pour le lavage des rues et les trottoirs subissent un balayage à l'aide de machinerie spécialisée au lieu d'un lavage à grande eau. Les différents parcs de la ville sont aussi débarrassés des feuilles mortes et des détritus accumulés tout au long de l'hiver. Et finalement, la ville de Rimouski informe la population qu'elle participera à nouveau cette année au mouvement En mai, laisse pousser. Cette initiative a pour objectif de protéger les abeilles, les papillons et les autres insectes pollinisateurs dont les populations sont en décroissance en retardant les premières tontes de gazon. La ville de Rimouski suspendra la tonte de grande surface gazonnée telle que le complexe sportif Guillaume-Leblanc à l'exception des plateaux sportifs, le parc Beau-Séjour ainsi que le secteur du Trimural du Millénaire pendant le mois de mai. La ville de Mont-Joli adhère aussi à cette campagne. C'était Pierre Michaud pour vos informations. Nos nouvelles se trouvent sur cfxrimouski.com.
Réveil Rimouski vous parvient en direct du studio McDonald's du lundi au vendredi de 6h à 10h. CFX FM 93.
Oui, oui, oui. Hier, on s'est laissé sur du jazz pendant la chronique de Pierre-Yves. Pourquoi? Parce que le suspense était insupportable. Pierre-Yves, on savait pas trop là, si Québec allait imiter Ottawa pour l'imposition du gain en capital au-delà de 250 000 $. Maintenant, on sait.
Le ministre Gérard regardait le budget fédéral et s'est dit « Bah! Une petite occasion de faire de l'argent facile, je vais dire. Hein? Il va y avoir un petit suspense d'ici une semaine, je vais vous le dire bientôt. Le lendemain... Hein, le lendemain, l'argent rentre dans les coffres. Le gouvernement a dit, on va faire pareil. Fait que dans le fond, maintenant, c'est réglé. Hein? C'est 66% à partir du 25 juin, le gain en capital inclut le taux d'inclusion pour le gain en capital, évidemment, après 250 000 pour les particuliers et à partir du premier dollar dans le INC. Alors, c'est réglé.
Quand tu m'as envoyé cette nouvelle-là tantôt par texto il y a quelques minutes, j'ai répondu de façon sarcastique, évidemment, « Oh mon Dieu, comme je suis surpris ». Écoute, il n'y a personne qui pensait que Québec allait laisser des sommes à terre.
Et voilà pourquoi, d'ailleurs, notre portefeuille s'est fait manger par le deuxième requin.
OK.
Voilà.
Tu veux rebondir, Pierre-Yves, sur un texte de Marie-Ève Fournier dans la presse sur l'héritage aux enfants ou peut-être même déshériter ses enfants.
Oui, Marie-Ève a commencé, Geneviève Peterson a suivi. Puis moi, j'en rajoute une couche. Je trouvais ça intéressant, la boîte de Pandore qui a été ouverte. Pourquoi? Parce que l'héritage, Patrick, c'est un sujet tellement toxique. Hmm. C'est un sujet, d'abord, que les gens disent « Hey, mon argent, c'est à moi, j'en fais ce que j'en veux. » C'est vrai. Mes enfants sont majeurs, ils s'arrangeront. C'est vrai. Maintenant, quand tu fais un testament, c'est non seulement un leg que tu fais, mais c'est aussi un signal. Tu envoies un message, tu transmets tes valeurs et tu transmets ce que tu veux laisser à la prochaine génération. Et un notaire m'a déjà dit, Patrick, peu importe le testament qu'une personne fait, elle peut revenir dans mon bureau le lendemain. Mm-hmm. Et de démolir et en faire un autre.
Donc, Pierre-Yves, excuse-moi de t'interrompre. C'est pour ça que c'est interdit dans le Code civil de demander d'être sur le testament de quelqu'un. Parce que tu peux lui dire, « Hey, je te lègue tout, voici la preuve, puis le lendemain, tu retournes chez le notaire, puis tu changes tout. »
Écoute, il y a des personnes qui, pour s'assurer l'affection de quelqu'un, vont chez le notaire avec la personne, signent un testament, le montrent à l'autre personne. L'autre personne a ça dans sa poche, « Hey, moi, j'ai un testament pour banquer mes arrières. » Paf! La personne meurt, puis elle se rend compte qu'il y a deux autres testaments qui ont été faits par la suite. Et donc, je t'arrête, je mène sur le point, parce que là, je te parle de cas où on peut en jaser longtemps. Je te donne un exemple. T'as une personne qui fait des enfants avec une personne. Ils se séparent. Après ça, cette personne-là se rematche avec une nouvelle personne. La nouvelle personne peut devenir la nouvelle héritière ou la nouvelle héritier. Il n'y a pas de problème, c'est normal, c'est le conjoint fait, peu importe. La question est, si cette nouvelle personne-là a déjà des enfants, lorsqu'elle décédera, moralement, l'argent devrait aller à qui? Parce que la première personne voulait peut-être tout léguer à son conjoint ou sa conjointe en lui disant « Quand tu mourras, sépare ça entre tous nos enfants. » Mais la nouvelle ou le nouveau conjoint peut tout garder.
Mais en fait, tout ça est à la discrétion de la personne qui fait son testament.
Exact. Donc, tu peux détourner un testament parce que la personne survivante peut réécrire les volontés si la personne n'a pas dit dans ses volontés. Je te donne un exemple. Tu es en couple avec quelqu'un, tu dis « Garde, je te fais confiance pour qu'après ta mort à toi, puisque tu es plus jeune que moi, tu vas gérer ça comme faut. » Et finalement, cette personne-là change son fusil d'épaule et ne respecte pas les volontés qui n'étaient pas écrites, mais qui avaient été discutées. Tu comprends? Un détournement d'héritage, je te donne un autre exemple. Le classique, là, puis j'ai vu beaucoup d'enfants m'écrire ça dans les dernières années. T'as un monsieur qui a eu des enfants dans un premier mariage. Il se rematche dans une deuxième union avec une femme, disons, plus jeune que lui. Vraiment plus jeune, disons 15-20 ans. Cette personne-là, ayant à peu près l'âge de ses enfants à lui, vient dans le fond stigmatiser ou redistribuer l'héritage. Parce que dans le fond, les enfants qui auraient normalement hérité du monsieur se retrouvent à décéder en même temps que la conjointe de monsieur. Alors peut-être que c'est les petits-enfants ou les héritiers de la nouvelle conjointe depuis 10 ans qui hériteront. Il y a aussi la notion de, dans la loi, Patrick, tu sais, une personne qui dit « je lègue mon usufruit, mon legs aux enfants qui seront encore en vie. » Mais là, le problème, c'est mettons que tu as eu 4 enfants, il y en a un qui est mort. Il en reste 3.
On divise par 3.
Oui, mais celui qui est mort, il a eu des enfants. Ça veut dire que les petits-enfants dont les parents sont encore en vie ont plus de chances d'avoir un héritage. On continue. Tu dis, la grand-mère meurt pas, dit, je lègue à parts égales à tous mes petits-enfants tel montant. Et là, la petite dernière est enceinte de 8 mois et demi. Ah, au moment du décès, est-ce que l'enfant était une chose légale, un être, ou c'était juste un fœtus en devenir d'un enfant? Tu comprends? Là, ça devient des zones grises.
OK, je t'arrête une seconde. Oui. Geneviève Peterson, dans son texte sur Nouveau, que j'invite les gens à aller lire, là, c'est très bon, pose la question de le légal versus le moral. Est-ce qu'on devrait pouvoir déshériter ses enfants? Je repose la question. Présentement, on peut déshériter ses enfants. Est-ce que ça devrait être légal?
Je pense que oui. Parce que c'est pas parce que tu as mis des enfants au monde qui sont rendus majeurs que tu n'as pas le droit de déshériter. Maintenant, comme être humain, que tu aies des bonnes relations ou non avec tes enfants, Patrick, mettons moi, mais j'ai 2 garçons. Là. Peu importe ce qui va arriver dans leur vie, je les ai mis au monde. Et ils ont peut-être eux-mêmes des enfants éventuellement. Et je me sens une responsabilité morale. Non seulement de leur léguer un petit quelque chose, mais ça, c'est de selon les besoins et les capacités de chacun, évidemment. Mais aussi, je me dis, je dois être équitable entre ces 2 personnes-là. Après ça, Patrick, l'équité dépend d'une personne puis d'une autre. Je peux avoir 2 enfants puis me dire, j'ai un enfant qui a super bien réussi financièrement puis un autre qui a eu des difficultés. Ça se peut que moi, moralement, je me dise, ah, je vais faire ça à parts égales ou à parts inégales parce qu'il y en a un qui a besoin plus que l'autre. Il y a aussi des gens qui se disent, tu sais, il y a une inéquité générationnelle de toute façon. Quand t'es l'enfant de parents qui ont eu 7-8 enfants, là, t'auras pas le même héritage que le voisin qui a eu un seul enfant. Même chose, je t'apporte la pire situation que je connais, OK? Il y a 2 personnes qui ont des enfants d'une première union, OK? Et maintenant, il y a une deuxième union ensemble et ils font un troisième enfant qui est de leur union. Donc, dans la famille, quand ils sont sous le même toit, il y a 3 kits de parents, là. Alors, là, l'héritage de l'enfant dépend du parent qui sont ensemble, mais aussi des anciens parents du moment de la mort et ce qu'ils auront décidé comme investissement. C'est impossible d'être équitable et juste à 100% selon toutes les valeurs. Mais chose certaine, t'apportes un bon point. T'es pas obligé de léguer quoi que ce soit à tes enfants. Tu peux tout blower si tu veux. Tu peux aller mettre ça sur le rouge au casino. Tu peux faire ce que tu veux. Mais n'oublie pas une chose. Qu'est-ce que t'envoies comme signal comme personne? Ça veut dire que après ta mort, tu as envie d'envoyer un signal.
Bien, qu'importe le signal, tu paieras pas les conséquences du signal que tu envoies.
Mais ça fait des chicanes aussi dans l'autre sens. Oui. Imagine une personne qui hérite de quelque chose et qu'une famille s'arrange pour déshériter cette personne-là au dernier moment de la vie d'une personne ou redistribuer des polices d'assurance-vie, des actifs, peu importe. Des histoires d'héritage, Patrick, qui font des chicanes de famille, oui. Là, ça n'arrête pas. Il y a même des gens qui travaillent très fort pendant plusieurs années avant la mort de quelqu'un pour orienter les sentiments de la personne.
Non.
Oui,
non.
J'ai vu des gens Arrête. Aussi, Patrick, pire que ça. Ils sont bien gentils, ils s'occupent de quelqu'un. Mais quand la personne est en perte d'autonomie, la personne dit « Oh, hey, oh dépense non. pas trop ton argent, là, parce que la personne sait qu'elle hérite. »
Je refuse de croire à ça,
ah, Patrick, il y a du monde qui se dit « La personne est en fin de vie, minimise les services à la personne en fin de vie en se disant « C'est moi qui ramasse le reste. » Moi, je trouve ça épouvantable. J'ai des gens que je connais qui commencent à arriver dans les derniers droits, puis je leur ai dit « Pensez à